20 provinces sur les 26 que compte la RDC sont touchées par l'épidémie de choléra. Le ministère de la Santé publique, qui fournit ces statistiques, précise que plus de 24 000 cas suspects sont enregistrés avec plus de 500 décès. Face à cette situation, il affirme avoir mis en place un programme d'élimination du choléra et de contrôle des autres maladies diarrhéiques. Comment analyser cette situation? Pour en parler, je reçois professeur Didier Bompangé. Bonsoir professeur. Vous êtes coordonnateur du programme national d'élimination du choléra. Marie Migani, bonsoir madame.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Vous êtes présidente de la société civile du Sud Kivu et vous êtes aussi technicienne en santé et développement communautaire. Docteur Léon Moubikaï, bonsoir.
Bonsoir monsieur Guy.
C'est plutôt monsieur Alain Hirung. Vous êtes député national élu de Luebo dans la province du Kasaï et cadre du parti politique UDP. C'est également spécialiste en santé publique et en gynécologie. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'épidémie de choléra a atteint des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo, avec désormais 20 provinces sur 26 touchées par la maladie, avec un total cumulé de plus de 24 000 cas suspects, causant déjà près de 530 décès. Ces statistiques sont fournies par le ministère de la Santé publique. Pour faire face à cette situation, l'OMS octroie 400 000 dollars au ministère congolais de la Santé publique et participe à l'élaboration d'un plan opérationnel d'urgence de réponse face à l'extension de l'épidémie. Des précisions avec vous, Blaise Makassi.
La maladie touche déjà des grandes villes du pays comme Bandunduville, Bukavu, Goma, Manono, Malemakulu, Minova, Mokala, Kimpese, Uvira et certaines zones de santé de Kinshasa, affirme l'OMS. Et le risque de propagation demeure encore très élevé vers la région du Grand Kasaï, où les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent encore la vulnérabilité face à cette épidémie. À la date du 2 septembre, les autorités de la RDC ont déjà recensé un total cumulé de plus de 24 000 cas suspects, avec 528 décès. Pour accompagner le ministère de la Santé publique, l'OMS a élevé l'épidémie au grade 2 du cadre de la réponse d'urgence et déployé un groupe d'experts internationaux pour appuyer l'élaboration d'un plan d'urgence pour la réponse à l'épidémie. L'OMS estime que l'approvisionnement en produits pharmaceutiques est un enjeu crucial, y compris les coûts opérationnels des transports de ces intrants vers les zones les plus touchées. C'est dans ce contexte qu'il s'est engagé à donner une contribution financière immédiate de 400 000 dollars américains pour le déploiement des équipements techniques dans les zones prioritaires. La lutte engagée pour contenir rapidement les choléra en République démocratique du Congo entre donc dans une nouvelle phase avec les niveaux d'engagement du gouvernement, de l'OMS et des autres partenaires.
Merci Blaise Makassi. Professeur Didier Bompangé, vous êtes coordonnateur du programme national d'élimination du choléra. Au 2 septembre 2017 dernier, le ministère avait déjà recensé plus de 24 000 cas suspects avec près de 530 décès. Aujourd'hui, quelle est la situation de cette épidémie de choléra?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, la situation de cette épidémie de choléra, le premier mot que j'aimerais ici dire à votre attention, c'est que nous sommes en face d'une situation qui est parfaitement maîtrisée. Parfaitement maîtrisée parce que nous ne sommes pas surpris de cette situation. C'est fait depuis bientôt 2 mois que, au sein du ministère de la Santé, sous l'impulsion de son Excellence, monsieur le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, nous travaillons d'arrache-pied pour gérer cette situation. Nous travaillons d'arrache-pied pour faire un suivi quotidien de ce qui se passe à travers le pays et échanger avec tous les partenaires sur la dynamique évolutive de cette épidémie. Donc nous savons ce qui se passe actuellement. La situation est parfaitement contrôlée. Nous avons un système de suivi quotidien de la manière dont l'épidémie progresse et heureusement moment, il y a également des zones de succès, des zones où la situation est en train déjà d'être améliorée. Donc, je pense que j'aimerais dire ici, présentement, c'est que nous ne sommes pas en face d'une situation qui nous dépasse totalement. La situation est effectivement dans un état où inhabituel, mais elle est parfaitement maîtrisée.
Alors, docteur, il y a des auditeurs qui ont des préoccupations. Nous allons prendre celle-ci qui vient de Kisangani pour vous. Je disais donc que nous allons devoir prendre la réaction de cet auditeur qui a des préoccupations en ce qui concerne la situation de l'épidémie de choléra.
Oui, le Filjas Momo depuis la ville de Kisangani de la province de la Tchopo. 20 provinces touchées par le choléra, c'est 20 provinces de trop. Dans un pays organisé et respectueux de la vie de la population, un seul cas suspect interpelle directement le gouvernement en vue de prendre les dispositions nécessaires. Ainsi, au regard de cette triste situation, l'on peut se poser des questions suivantes. Pourquoi le gouvernement n'a pas pu intervenir comme il fallait en vue d'éradiquer cette maladie? L'implication passive est quasi faible du gouvernement dans ce secteur est-il un signe de l'effacement de l'État ou d'attaque de partenaires extérieurs? La recherche du mieux-être est confiée à l'État. Peut-on dire que ce dernier est dépassé par des questions politiques et que la santé demeure le cadet de ses soucis? Ne dit-on pas que gouverner se prévoit?
Gouverner se prévoit, professeur Willy Fulgence Mbombo vous pose la question de savoir pourquoi le gouvernement n'a pas pu intervenir comme il fallait en vue d'éradiquer cette maladie pour qu'on en arrive à 20 provinces sur 26, c'est quand même trop. Ça a pris trop de temps, cette intervention.
Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Ce qui s'est fait aujourd'hui, premièrement, c'est que les statistiques que vous avez sont les statistiques publiées par le ministère de la Santé. Donc, vendredi dernier, en séance publique, le ministre de la Santé a fait une déclaration élevant la situation du choléra au niveau d'urgence humanitaire de premier plan. Donc, et les chiffres et les décisions sont ministérielles, sont gouvernementales.
Mais pourquoi le gouvernement n'a pas pu intervenir à temps quand on était par exemple à 5, 6 ou voire 2, 3 provinces et jusqu'à attendre à 20 provinces pour parler d'une situation d'urgence?
Alors, je continue à vous faire le point de ce qui s'est fait aujourd'hui parce qu'il est important que vous soyez informés de ce qui s'est fait aujourd'hui. Alors, donc, je continue. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est que donc les chiffres que vous avez sont les chiffres officiels du gouvernement. Au moment où, je peux vous assurer que dans plusieurs pays, les statistiques nationales restent méconnues. Donc, ça veut dire que le gouvernement prend la mesure de la situation, informe, élève en premier le niveau d'urgence afin de mobiliser tout le monde à la réponse. En deuxième point, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que très rapidement, le ministre de la Santé a pris la mesure de la situation et a décidé de modifier la manière de gérer ce problème. Donc, le choléra est arrivé dans notre pays depuis 1974 dans la partie ouest de notre pays et depuis 1977 dans la partie est de notre pays. Et depuis lors, cette maladie a toujours été gérée comme un problème banal. Mais tout récemment, devant l'ampleur de la situation, l'actuel ministre de la Santé a décidé de modifier la manière de gérer cette épidémie et de mettre en place une structure appelée un programme national d'élimination du choléra, je vous dis bien un programme d'élimination du choléra, c'est qu'il y a une décision très forte. Et donc cette mesure est récente et cette mesure a été prise en réponse à la situation actuelle. Et très rapidement, le ministre s'est rendu dans la ville de Goma où les premières mesures de mobilisation de partenaires, de mobilisation des ressources ont été mises en place pour répondre à la situation présente. Donc c'est vrai, c'est que 20 provinces c'est trop, effectivement, on aimerait en avoir moins, mais je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire, de répondre à la question, est-ce que la réponse qui est apportée aujourd'hui est à la hauteur de la situation? Je pense que la réponse à cette question, c'est oui.
Nous allons parler de cette réponse dans les détails, docteur, professeur, mais comment le choléra, c'est une maladie de main sale, comment on en est arrivé à cette progression rapide et massive jusqu'à atteindre les 20 provinces? Qu'est-ce qui en est la cause?
Alors, vous savez, le choléra dans notre milieu, dans notre société, c'est comme un malade qui a contracté une maladie infectieuse, je pourrais prendre un exemple comme la tuberculose, depuis plusieurs années. Donc il arrive à l'hôpital devant un médecin, après avoir été dans plusieurs hôpitaux, à plusieurs endroits, il arrive dans un état très grave, très dégénéré. Bien, je pense que vous n'allez pas attribuer la faute au médecin en face de qui il se trouve dans l'état où il est. Donc le médecin constate une situation qui date d'il y a très longtemps. Donc ça veut dire que s'il est dans cet état, ça veut dire qu'il a toujours été mal géré, il a toujours été maltraité, il a toujours été et aurait reçu les plus mauvais antibiotiques, il n'a jamais été pris en charge correctement. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à celui devant qui il se trouve au moment où vous le voyez et dire pourquoi il se trouve dans cet état-là. Il gère la situation telle qu'il a. Ce que vous pouvez lui reprocher, c'est quel diagnostic il fait de la situation face à laquelle il se trouve et quelle solution il apporte. Celui-là, vous pouvez lui reprocher ses faits présents. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de gérer la conséquence d'une gestion longue et pas forcément à la hauteur de cette situation-là. Je vous ai dit que c'est depuis 1974 à l'ouest et 1977 à la partie est de notre pays que cette maladie est arrivée, et la maladie a pris des proportions inquiétantes à partir de 1994, à partir des grandes épidémies que nous avons observées à Goma. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train de gérer les conséquences d'une longue gestion passive et, comme je l'ai dit,
une mauvaise gestion. Alors
voilà, une gestion, alors on peut qualifier comme on veut, mais le problème c'est que ça n'a pas été fait comme il se doit. C'est pourquoi j'ai dit que j'attire l'attention sur le fait que est-ce que la réponse qui est apporté aujourd'hui est à la hauteur du problème? La réponse est oui.
Voilà. Marie Migadi, vous êtes présidente de la société civile du Sud Kivu, également technicienne en santé et développement communautaire. Madame Migani, quelle est la situation à Bukavu, là où vous vous trouvez?
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste. Actuellement, ici à Bukavu, nous avons 3 ans de santé qui sont toutes touchées par les choléras. Mais ce que nous devons spécifier, c'est par rapport d'abord aux causes de ces choléras-là. Quels sont les symptômes? Puisque d'autres personnes peuvent attendre parler de choléra, ils ne savent pas quelles sont les causes et quels sont les symptômes. Par rapport aux causes, le choléra est causé par une bactérie appelée Vibrio cholerae, et les personnes qui contractent le choléra, ils les contractent en buvant de l'eau ou en mangeant des aliments infectés par la bactérie. Maintenant, quand est-ce que, quels sont les symptômes qui peuvent vous montrer que vous êtes atteint par les choléras? Les principales, c'est la diarrhée liquide. Et là, il est si important qu'elle vide rapidement l'organisme de son eau, de ses sels et de ses minéraux. Donc, on peut perdre 1 litre par heure. Et des vomissements peuvent aussi accompagner. Et là, il y aura plusieurs complications telles que des crampes musculaires, une mixtion réduite ou absente et de la faiblesse. Et tout ça, nous devons voir la cause de quoi? La cause de la rareté de l'eau dans la ville, mais aussi c'est lié à l'hygiène et à l'assainissement. Ce que nous pouvons dire en tant que technicien de santé et de développement communautaire, disons que nous devons favoriser la prévention au lieu d'attendre les traitements. Parce que si on prévient le choléra, j'ai entendu parler de notre mon prédécesseur qui a dit que c'est depuis longtemps que le choléra est vit en RDC. Mais quelles sont les précautions que nous avons prises en attendant que le choléra arrive? Donc ce sont là les questions que nous devons nous poser. Nous ne devons pas attendre seulement les traitements au lieu de privilégier la sensibilisation. Et là, il y a des précautions que nous devons parler, que nous devons sensibiliser et conscientiser la population pour éviter ça et éviter les complications qui peuvent survenir.
Madame Migani, j'ai posé la question au professeur Bompangé sur la gestion. Si la gestion de cette maladie était mauvaise, parce que vous l'avez dit, il faut privilégier la prévention.
La prévention.
Mais oui. Comment vous expliquez qu'on en soit arrivé à 20 provinces sur 26?
Oui, c'est ce que je viens de dire. Il faut regarder quelles sont les causes. Et si nous n'avons pas attaqué les causes, nous ne pouvons pas nous frotter les mains en disant que nous avons fait quelque chose. Cela montre que le pays ne va pas. Le pays ne va pas. Puisque c'est impossible sur 26 provinces.
Alors,
en situation par le choléra. Oui.
Alors, Madame Marie Migani, à Bukavu, quel est le taux d'accès de la population, par exemple, à l'eau potable?
Oh, là, on n'en parle pas. Donc, les gens se lèvent à 0 heure pour aller chercher de l'eau. Il y a des quartiers qui sont déjà un mois sans que les robinets ne coulent pas de l'eau. Les gens commencent à utiliser de l'eau de la route d'ici avec toutes les conséquences qui peuvent surgir. Maintenant, aujourd'hui, nous avons eu un partenaire, la DDC, Coopération Suisse, qui veulent faire l'addition d'eau au niveau des bases du bureau dans le territoire de Walungu pour que la population puisse être approvisionnée en eau potable.
Alors, vous avez parlé de la prévention, mais à votre niveau en tant que société civile, qu'avez-vous mené comme action pour sensibiliser la population?
Oui, c'est bien de sensibiliser la population, puisque parmi, la, parmi le, les sensibilisations que nous devons mener, c'est par rapport à l'eau. L'eau que nous devons prendre, ça doit être de l'eau purifiée, de l'eau bouillie, mais au moment où nous n'avons pas d'eau. Je donne l'exemple de Nanticor, qui nous sensibilise toujours par rapport à ces gens de diarrhée, mais il n'y a pas d'eau. Donc même si nous faisons des sensibilisations, tant que l'eau n'est pas là, la sensibilisation que nous sommes en train de faire, c'est en vain. Mais nous avons mené des plaidoyers auprès du gouvernement, auprès de la régie des eaux, pour qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent approvisionner la population en eau potable. C'est ça la démarche que nous sommes en train de mener. Et nous avons l'espoir avec la gestion d'eau qui va se faire bientôt, puisque nous avons rassuré, ça sera dans 6 mois. On peut voir qu'est-ce qui peut être fait.
Alors, madame, il y a également cette réflexion pour vous qui nous vient de Kinshasa.
C'est Gracie Manzongo depuis Kinshasa. Bien que le gouvernement congolais a trop de méfaits, tout ne peut pas s'axer et s'atteler que sur ces initiatives. La population doit notamment prendre conscience de certaines choses, comme le cas des maladies des sales mains. Le gouvernement ne peut pas en fait, soigner particulièrement chaque individu ou chaque citoyen. Prenons le cas de la saleté de Pakadjuma dans la commune de Limété, à Kinshasa. La population doit nécessairement prendre conscience, car c'est elle qui habite là. Le gouvernement peut toutefois intervenir juste après. Je donne la responsabilité aussi à la population, bien que le gouvernement congolais trop beaucoup d'erreurs.
Voilà, madame, pour lui, les responsabilités sont partagées. La population a également sa responsabilité.
Oui, je suis d'accord avec lui. La responsabilité est partagée, mais le grand pourcentage, ça revient au gouvernement. Ça revient au gouvernement. Puisque vous allez voir, comme nous sommes à Bukavu, dès que vous arrivez au pays voisin, les comportements changent directement. Donc, nous, en tant que Congolais, nous devons prendre conscience en tant que population, mais même le gouvernement doit prendre conscience par rapport à leurs responsabilités. Je suis d'accord avec lui.
Merci.
La part de responsabilité partagée à un pourcentage très élevé par rapport au gouvernement.
Merci Marie Migani. Docteur Léon Moubikaï, vous êtes député national élu de Luebo dans la province du Kasaï. Vous êtes cadre du parti politique UDP, c'est spécialiste en santé publique et en gynécologie. Docteur, comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup, M. Alain, pour la question et je salue aussi les auditeurs de la radio de la paix. En fait, je crois qu'il y a, il y a des éléments que nous devons prendre en considération. Moi, je suis quand même étonné de voir que le professeur est en train de jeter la balle dans un autre camp. Non. La gestion que nous avons ici, c'est une continuité. Nous sommes partis de 1994, comme vous êtes en train de le dire, jusqu'à aujourd'hui, l'épidémie est en train d'augmenter. On ne doit pas nous dire que nous avons hérité d'une situation catastrophique, comme ça nous pouvons nous justifier, maintenant nous avons un plan pour... Non, qu'on arrête de nous distraire quand même. Parce que c'est une continuité. La personne qui était là, lui-même sait que ils ont hérité cette situation-là, mais depuis, ils sont là, plus de 4 mois déjà, ou bientôt 6 mois. Ils sont là. Et dans les 6 mois, ils peuvent nous dire combien de cas de choléra on a eu. La situation de choléra dans ce pays reflète le niveau de santé de la population de ce pays ici. Ça reflète la démission totale du gouvernement. Parce que si vous suivez, comme maman l'a dit là-bas au Kivu, mais les gens doivent se réveiller à 4 heures pour avoir de l'eau. Et ça, on va dire que c'est le ministre passé qui n'a pas bien géré, c'est le ministre actuel qui est en train de bien gérer parce qu'il a eu un plan où on doit éradiquer les choléras. Non, qu'on cesse de nous distraire. Que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités pour prendre en charge sa population. C'est une maladie transmise par le manque d'eau. La part d'hygiène individuelle existe, mais l'hygiène publique compte plus. Il n'y a pas seulement l'eau. Et vous savez aussi qu'il y a une contamination directe. Mais allez sur la ville de Kinshasa, regardez tous ces dépotoirs qu'on nous a mis là, depuis que, je ne sais pas, la Banque mondiale a arrêté le financement. Il y a des dépotoirs partout ici. Et si quelqu'un défèque dans ces dépotoirs, et les mouches se posent là, ils viennent se déposer sur les pains qu'on vend juste à côté de ces dépotoirs, qu'est-ce que nous allons avoir? Que l'État congolais prenne ses responsabilités. Qu'on cesse de lancer la balle dans les camps des autres, ce sont les autres qui ont mal géré. Non, non. Nous sommes dans, depuis 1997, nous sommes dans la continuité de l'administration d'AFDEL, suivi des PPRD, majorités. Donc, qu'on cesse de nous distraire et qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils sont venus entrer dans cette politique-là, dans cette administration-là, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils prennent en charge ce qu'ils doivent prendre.
Pourtant, dans plusieurs émissions sur la santé, des émissions auxquelles vous avez participé, ici sur Radio Okapi, vous avez souvent affirmé que la RDC avait l'un des systèmes sanitaires les meilleurs, notamment en Afrique centrale, mais qu'est-ce qui ne marche pas?
Je soutiens ça. Je continue à soutenir, je surveille, je suis en train de circuler dans ce monde. Et je connais les systèmes sanitaires, les différents systèmes sanitaires au monde. Nous avons les meilleurs systèmes sanitaires au monde. Mais nous avons des problèmes avec les animateurs. Nous devons les dire. Et nous devons cesser de nous lancer des balles pour dire nous avons hérité. Vous avez hérité quoi? Vous avez vu ça? Vous avez accepté d'entrer dans les systèmes? Prenez vos responsabilités, aidez la population.
Alors, mais professeur, vous avez évoqué le cas des déchets qui ont mis ici à Kinshasa pratiquement KO et les autorités provinciales et les autorités du gouvernement central. Au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas entendu comment les députés nationaux, vous vous êtes mobilisés par rapport à cette question.
Mon frère, nous avons à l'Assemblée nationale une majorité mécanique fabriquée. Donc, les gens doivent prendre... Moi, j'insiste, c'est un problème de responsabilité. Et la gestion des poubelles, ce n'est même pas un problème de l'Assemblée nationale. La gestion des poubelles, c'est un problème du gouvernement provincial. Et ce gouvernement provincial est là. Il a instauré un projet. Le projet s'est arrêté. Il ne sait pas comment il doit s'en sortir. Ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est la continuité de l'administration. Ils doivent assumer. Ils sont entrés dans les systèmes. Ils acceptent d'aller avec les systèmes jusqu'au bout. Ils ne disent pas que nous avons hérité. Non.
Mais du moment où le système est grippé, les députés nationaux vous laissez faire carrément.
On laisse pas faire. Je viens de vous dire quelque chose ici. Nous avons au niveau de l'Assemblée nationale une majorité mécanique fabriquée de toutes pièces. Et quand vous soulevez un problème sérieux, il y en a qui banalisent ça, qui estiment que ce n'est pas important. Donc c'est ils ont démissionné et qu'ils démissionnent jusqu'au bout.
Docteur Léon Moubika, visiblement la culture du risque ou des urgences semble ne pas être l'apanage des pays africains. On le constate lorsqu'il y a des catastrophes dans plusieurs pays. Souvent, on intervient en retard.
Non, ici, c'est là où je reviens sur ce que le professeur a dit tout à l'heure. Moi, je m'attendais à ce que le professeur nous dise quand nous avons pris le pouvoir. Ce n'était pas 528 décès. Nous avons trouvé, peut-être, depuis que nous sommes là, on n'a pas eu de décès. Ce pays, j'insiste, monsieur Alain, nous avons un système très organisé. Lisez notre système sanitaire. Le plan de contingence dans les cas d'urgence, c'est connu. On sait que on doit positionner à tel centre de santé de référence, tel kit pour ça. C'est ce que moi je m'attendais à ça, que le professeur nous dise, voilà, notre programme d'éradication de choléra, nous avons adopté ça. Le plan de contingence, au cas où il y a une urgence dans la commune de Lemba, voilà combien de kits on va utiliser, se positionner à tel niveau. Merci. Au cas où il y a une urgence, n'hésitez pas à aller voir ces gens-là. Quand vous êtes à Luebo, voilà ce que vous devez faire. C'est dans le bureau central de telle zone de santé où on doit s'approvisionner.
Merci,
je
docteur.
M'attendais à ça.
Merci, docteur. Le professeur va répondre. Professeur Didier Bompangé, qu'est-ce que vous répondez à docteur Léon Moubikaï?
D'accord, mais j'aimerais déjà commencer par saluer le cher confrère et honorable député et le remercier pour en fait son engagement et son énergie. Alors, puisque nous sommes à la radio et que vous êtes une des chaînes les plus écoutées, j'aimerais quand même, avec donc votre permission, et apporter quelques petites précisions de telle sorte que nous puissions pas laisser les populations avec des informations qui ne sont pas placées au bon endroit. La première chose que je viens simplement dire, c'est que nous sommes en train de parler du choléra et on a pas mal insisté sur les dépôts d'ordures à Kinshasa, sur tout ce qui n'est pas ramassé et tout ça comme déchets. Je viens de dire que ce n'est pas à travers les dépôts d'ordures et des mouches qui vont quitter les dépôts d'ordures sur du pain vendu dans la rue que les gens vont attraper le choléra. Donc, je pense que il se pourrait qu'un jour on ait des cas de ce genre-là, mais ce n'est pas le moyen principal de transmission. Donc c'est pas
ce n'est pas un des facteurs favorisants.
Voilà, c'est pas avec les dépotoirs d'ordures. Voilà. Sinon, après on va dans tous les sens et puis après on pense qu'on va tout falsifier et puis on pense qu'on risque de désinformer nos populations. Et il est important, les épidémies c'est comme la guerre, il est important pour gagner la bataille contre les épidémies d'être sérieux dans les informations qu'on apporte et d'apporter que des bonnes informations aux populations afin de préparer les populations à faire face à ce type de fléau. Donc il s'agit principalement...
L'avez-vous fait, docteur? Est-ce que la population est sensibilisée pour faire face à ce genre de fléau? On est déjà 20 provinces sur 26, il ne reste que 6 provinces pour que toute la République soit atteinte.
Alors déjà, l'avez-vous fait? Oui, en commençant par ici, en commençant par apporter ces précisions, en disant que ce n'est pas avec les dépotoirs d'ordures qui sont partout à Kinshasa. Ça, comme on le dit, que les gens vont avoir du choléra. Ça ne sera pas avec cela. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a tout un programme de communication au sein du ministère de la Santé et toutes les activités sont faites régulièrement. Mais mon confrère qui me suit...
Vous savez, c'est que la communication en RDC,
oui.
Il y a le problème d'électricité, oui. Un problème d'accessibilité,
oui.
Beaucoup de problèmes. Ben, est-ce que vous êtes sûr que la population est suffisamment sensibilisée?
Les gens ne sont certainement pas suffisamment sensibilisés. Le pays est vaste. Il y a énormément de contraintes et d'obstacles pour les changements de comportement. Il y a tout un travail à faire là-dessus, ça c'est sûr. Les gens n'ont pas toutes les informations et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes ici ce soir. C'est aussi pour participer à cet effort de communication. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que la première chose, c'est que c'est à travers de l'eau souillée, ce n'est pas à travers des dépotoirs d'ordures. Autre chose, c'est que je n'ai pas du tout essayé de dire qu'il n'y avait aucune responsabilité sur le présent. J'essaie simplement de reconstituer les faits. Les faits, c'est que mon confrère sait bien que si vous avez un patient qui souffre d'une tuberculose et qu'il a été longtemps traité de manière inappropriée avec des antibiotiques qui ne sont pas les meilleurs et qu'il se retrouve à développer une situation de résistance extrême, il va se retrouver un jour devant un médecin qui ne pourra pas le traiter convenablement parce que on lui aura donné des mauvais antibiotiques. C'est comme les épidémies. Longtemps mal gérées, longtemps mal traitées, longtemps mal prises en charge, on se retrouve avec des situations difficiles à gérer aujourd'hui.
Professeur, vous avez suivi Marie Migani qui a affirmé que pour elle, les responsabilités étaient partagées entre le gouvernement et la population, mais que le gouvernement avait la plus grande responsabilité.
Bah, je pense qu'on n'est pas ici en train de faire le jeu de qui défend qui. Je pense que nous, ma spécialité, c'est gérer les épidémies de choléra et c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire depuis des années. Donc il a plu aux autorités de nous demander d'apporter notre expertise sur cela. C'est ce qu'on essaie de faire au mieux. Donc moi je n'aimerais pas rentrer dans ces jeux de qui défend, qui accuse et tout ça. Moi tout ce que je constate, c'est que les épidémies de choléra que moi j'étudie depuis des années, ce que je constate, c'est que à partir des années 94, la maladie s'est enracinée dans notre pays et a atteint de niveaux d'ancrage dans l'environnement qui sont tels que ça devient très difficile de les gérer aujourd'hui. Je vais terminer par un petit mot en disant que les 20 provinces dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on arrive à ces niveaux-là. Donc, on a des vagues de flambées épidémiques comme cela, et puis là, on a mis en place un plan qui va certainement rapidement améliorer la situation, et on reviendra à des situations stables où la maladie va aller. Voilà.
Merci. Madame Marie Migani, vous êtes technicienne en santé et développement communautaire. Il y a beaucoup de malades, je présume, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Lorsque quelqu'un tombe malade et qu'il est confirmé, qu'il souffre, qu'il présente les symptômes du choléra, qu'est-ce qu'il devrait faire? Quels doivent être les premiers réflexes? Madame Marie Migani. Visiblement, nous l'avons perdu. Docteur Léon Moubikaï, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Bahomé de Bukavu au sud Kivu. Cette situation est très déplorable. C'est vraiment une des preuves irréfutables et aussi suffisantes que le gouvernement congolais n'a aucune politique réelle de santé publique, ni aucun programme national sérieux de lutte contre les maladies en RDC. Autant dire qu'en laissant dans le cas d'espèce le choléra sévir avec une telle sévérité en RDC, le gouvernement congolais n'a pas le moindre souci de santé publique. Je me demande alors pourquoi voter chaque année le budget de santé publique qui, curieusement, ne sert à rien dans ce secteur de la vie nationale.
Vous êtes l'autorité budgétaire, docteur Léon Moubikaï, vous êtes député national. Pourquoi voter le budget de la santé publique du moment que ce budget est maudit et ne sert pratiquement à rien?
Oui, merci beaucoup, monsieur Alain. Mais je préfère d'abord qu'on revienne sur un correctif que le professeur a donné ici. Je n'ai pas dit que les immondices transmettent les choléras. J'ai dit s'il y a des défécats, outre la transmission, comme tout le monde veut parler toujours de l'eau des boissons, mais on peut avoir une transmission directe. S'il y a quelqu'un qui a mis les selles là-bas et qu'il y a des mouches à côté qui viennent se déposer sur le pain, les profs ne peuvent pas me dire le contraire. Donc nous, c'était un petit correctif. Et ça, c'est une contamination directe. Il ne peut pas me dire le contraire. Je reviens sur le budget de l'État. Je sais que je suis de l'autorité budgétaire en tant que député national. Mais vous savez, il y avait une organisation, une demande à ce que le budget de la santé soit de 15% pour atteindre les objectifs escompté. Et vous savez que la RDC n'a jamais atteint ce niveau-là. C'est vrai que ce budget est modique, on accepte, mais je vais vous dire, il y a nos partenaires au développement qui nous accompagnent dans cette histoire. Même quand le professeur est en train de parler de ces projets qu'ils ont pour éradiquer le choléra, l'OMS est intervenu la semaine passée pour nous donner même les montants.
400 000 dollars.
Et aussi de ça. Donc oui, donc on ne me dira pas aujourd'hui que c'est le budget de l'État. Donc le budget de l'État, quand les partenaires interviennent, ils sont là en train de nous aider. On doit reconnaître aussi leurs efforts. Mais comment ce qu'on donne là est utilisé? Est-ce que c'est utilisé pour l'objectif à atteindre? C'est ça le grand problème. Moi, j'insiste qu'on nous dise ce soir que voilà le plan qui est élaboré. Voilà la première ligne, c'est ça, le plan de contingence. À tel niveau, si vous avez ça, il y a ça. Que nous ne sommes pas là pour la théorie, qu'on dise que la population entende ce que le gouvernement est en train de faire. Et qu'on ne nous dise pas, nous avons trouvé la situation catastrophique. Non. C'est déjà catastrophique, nous acceptons, mais entrons dedans. Et donnons les mesures claires pour l'avenir.
Docteur Léon Moubikaï, j'ai posé la question à Madame Marie Migani. Elle n'était pas joignable. On me dit qu'elle est en ligne. Je vais lui donner la parole tout à l'heure. dès qu'il y a un malade qui se présente, qui présente les symptômes du choléra, quel devrait être le premier réflexe? Il y a beaucoup d'auditeurs qui vous suivent, vous le savez, cette émission est aussi pédagogique. Docteur Léon?
Oui.
Oui, qu'est-ce que devrait faire un malade comme premier réflexe?
Oui, vous savez que le choléra tue, ce n'est pas les germes lui-même qui tuent, c'est surtout la déshydratation qui est à la base de ça. Et je pense que quand vous avez quelqu'un qui émet la diarrhée, une diarrhée liquide sous forme de l'eau de riz, il faut recourir au centre de santé le plus proche. C'est ainsi que moi j'insiste qu'on nous dise où, par exemple, si nous sommes à Bukama, quels sont les centres qui ont été identifiés, parce que l'OMS a donné cet argent. Et cet argent est destiné, et l'OMS a bien précisé que c'est surtout pour les produits pharmaceutiques. Et dans les produits pharmaceutiques, je suppose que ce sont des cyclines et beaucoup de liquides. J'étais une fois, il y a 2-3 mois, j'étais à Ubundu, où on avait positionné des perfusions pour réhydrater les malades. Et c'est ça là qu'on doit nous dire aujourd'hui sur le plan technique, voilà, pour telle partie du pays, voilà ce qu'on a fait, telle partie du pays, voilà ce qu'on a fait, ce que nous voulons exactement. Mais sachez que ce qui tue, c'est dans la déshydratation, il y a l'acidose, il y a peut-être l'atteinte rénale, et c'est la réhydratation qui est à la base du traitement, avant de penser même aux médicaments.
Merci. Madame Marie Migani, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà.
Par rapport à la question...
Le professeur Bompangé a tout à l'heure dit qu'en réponse, le gouvernement congolais avait mis en place un programme d'élimination du choléra. Vous êtes à Bukavu, une zone atteinte. Est-ce que vous sentez déjà les effets de ce programme?
Ok, les partenaires ont donné. Et ce que les partenaires ont donné au niveau de Bukavu, tous les malades sont envoyés à l'hôpital provincial de référence de Bukavu. Mais par rapport à la question que l'auditeur a posée, c'est dès que vous pensez avoir possiblement contracté le choléra, commencez immédiatement à avoir des solutions de réhydratation fabriquées à partir d'eau purifiée, des sucres et des sels pendant que vous vous rendez à l'hôpital. Puisque la personne qui est contractée par le choléra perd 1 litre d'eau par heure. Donc, en attendant que vous puissiez arriver à l'hôpital, là on prend en charge le malade ou la malade, vous auriez déjà récupéré quelques sels et minéraux qui étaient déjà perdus. C'est ça.
Alors, mais au niveau de Bukavu, est-ce que le programme mis en place par le gouvernement a déjà porté ses fruits?
Oui, par rapport à ça, c'est ce que j'ai dit. Le gouvernement ainsi que les partenaires, le moyen qu'ils ont mis en place, c'est prendre en charge gratuitement les malades au niveau de l'hôpital provincial de référence. Quand même, ça donne des fruits. Mais pour nous, ce que nous attendons en tant que société civile, nous voulons aussi qu'on puisse prendre des mesures préventives et non pas attendre toujours que la maladie arrive et puis qu'on commence à prendre la charge. Donc, nous devons prendre des mesures préventives pour que la maladie ne puisse pas attraper la population.
Madame, vous êtes spécialiste en développement communautaire. Quelles sont ces mesures préventives?
Ok, nous avons 10 précautions que nous devons éduquer notre population lorsque les causes sont touchées. Et les causes, là, nous avons la rareté de l'eau et l'hygiène d'assainissement du milieu. Chose grave même au niveau de notre capitale, qui est le Kinshasa, il y a aussi les problèmes de l'hygiène et assainissement. Nous avons 10 stratégies ou 10 précautions à prendre et à éduquer la population. Notamment, ne visez que de l'eau bouillie ou traitée chimiquement. Alors que dans notre ville, nous n'avons pas d'eau. Deuxièmement, il faut utiliser de l'eau bouillie ou traitée chimiquement pour laver les vaisselles, même brosser les dents. Troisièmement, peler tous les fruits et légumes avant de les manger. Quatrièmement, éloigner les mouches de la nourriture. Cinquièmement, éviter les glaçons, sauf s'ils sont faits avec de l'eau bouillie ou purifié. La crème glacée, les laits non pasteurisés et les salades qui peuvent être facilement contaminées par la bactérie. Cuisez parfaitement toute nourriture et mangez-la encore chaude. Donc mangez la nourriture chaude. Septièmement, méfiez-vous particulièrement des crustacés, une source fréquente de vibrions cholérae. Huitièmement, évitez les ceviches, donc poissons crus considérés comme aimés délicats en Amérique du Sud, comme nous, en République démocratique du Congo, nous voulons toujours copier. Et neuvième précaution, évitez les aliments et les boissons vendus par les vendeurs ambulants. Et dixième précaution, lavez-vous fréquemment les mains au savon et à l'eau qui coule. Donc, avec ces précautions-là, dès que la population a de l'eau en abondance, ils peuvent suivre ces précautions. Mais même si nous donnons ces précautions, alors que nous n'avons pas d'eau, donc on aura fait une chose et son contraire.
Et donc, si je vous comprends, madame, c'est une situation qui mérite une réponse globale.
Tout à fait.
Voilà. Oui. Professeur Didier Bompangé, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. L'OMS craint que si cette épidémie atteint la région du Grand Kasaï, où les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent la vulnérabilité face à cette épidémie, ce sera terrible.
Ben, déjà, il faut que je vous dise que ce diagnostic a été fait par le ministère de la Santé et partagé avec ses partenaires dans l'OMS. Et c'est la déclaration que le ministre a fait le vendredi dernier. Donc déjà, ça c'est une première précision que nous avons diagnostiqué ce risque de propagation au Kasaï. Nous avons partagé l'information avec les autres partenaires, ce qui est vrai. Et actuellement, comme disait l'honorable tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aujourd'hui, des équipes sont déployées sur les provinces du Kwilu et d'autres vont être déployées bientôt sur les provinces du Haut-Lomami, qui sont les deux axes susceptibles d'entraîner une diffusion de cette épidémie vers le Kasaï. Donc, en termes d'action, voilà ce qui est en train d'être fait déjà. Et pour le plan, les intrants sont déployés au niveau des différentes provinces et toute une machine logistique est en train aujourd'hui d'amener des intrants sur les provinces où les épidémies sont en cours. Donc, toutes les actions sont en marche actuellement et demain, il y a toute une série de réunions sont en cours d'un côté autour de cette problématique de choléra, de l'autre autour de la problématique du Kasaï afin d'adresser ces deux problématiques au même moment. Donc voilà les choses qui sont en train de se faire pour les détails, ce qu'ils veulent, les collègues les auront.
Et en conclusion, la communication reste l'arme fatale.
Ben, la communication, effectivement, reste l'arme fatale et c'est là où il va falloir communiquer posément, surtout sans patient. Et juste pour terminer cette communication, l'importance de dire exactement les bonnes choses. Je viens simplement corriger pour certains de nos étudiants qui nous écoutent que la contamination directe, ce n'est pas à travers les mouches, c'est d'homme à homme. Et il est important de donner les bonnes informations et de façon posée. Voilà.
Merci. Docteur Léon Moubikaï, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite de cette épidémie par rapport à toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement?
Oui, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas en donnant des produits, ce n'est pas en mettant les kits dans les coins. C'est agir en aval. Nous devons agir en amont. Agir en amont signifie les réseaux de distribution d'eau doivent être disponibilisés dans les grandes villes, par exemple, comme Bukavu. Il est étonnant que les gens doivent se réveiller à 4 heures du matin pour aller puiser de l'eau. Donc je pense qu'il faut que les gouvernements prennent ses responsabilités et qu'on ne nous dise pas que nous avons hérité. Non, il n'y a pas question d'héritage dans l'administration. L'administration est continuelle.
Merci, docteur.
Et que chacun prenne ses responsabilités.
Madame Marie Migani, un mot en guise de conclusion. Madame Migani, décidément, nous l'avons perdue. Madame Migani est vice-présidente de la Société civile du Sud Kivu et aussi technicienne en santé et développement communautaire. Merci, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. Merci, professeur Didier Bompangé, coordonnateur du programme national d'élimination du choléra. Merci à Dr. Léon Moubikaï, député national élu de Luebo dans la province du Kasaï, cadre de l'UDPS et spécialiste en santé publique et en gynécologie. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.